Le journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Trop, c'est trop, trop de boulot. Les magistrats sont au bord du burn-out. C'est une enquête du syndicat de la magistrature. Témoignage dans un instant. Le site impots.gouv.fr en rade. Cette nuit, trop de connexions. Les millions de contribuables concernés, du coup, ont 48 heures de plus pour faire leur déclaration jusqu'à jeudi minuit. Renault, Fiat, Chrysler, la fusion verra-t-elle le jour? Le conseil d'administration de Renault donne son avis aujourd'hui. Mais attention, pour certains, l'italo-américain sous-évalue la valeur du français. Autre réunion au sommet aujourd'hui, celui d'une droite sans tête depuis le départ de Laurent Wauquiez. On verra que ça n'arrange pas forcément les affaires de la majorité. Des grèves aux urgences, 75 services concernés partout en France. Ça, c'est un sujet pour votre invité tout à l'heure, Nicolas.
Oui, il s'agit de la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn. Elle est l'invitée du grand entretien de la matinale aujourd'hui. Appelez-nous, dialoguez avec elle, questions-réactions au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter.
À la une également, les militaires qui reprennent la main au Soudan, un ancien curé qui chante des slogans anti-Macron dans une église, et la modestie des femmes, non, les footballeuses n'aspirent pas aux mêmes primes que les hommes pour leur Coupe du Monde qui commence vendredi.
France Inter.
Ils rendent la justice, mais dans quelles conditions? Le syndicat de la magistrature a posé la question aux juges et aux procureurs et France Inter vous révèle ce matin le triste tableau dessiné par leurs réponses. Des magistrats exténués qui travaillent plus de 10 heures par jour en moyenne sans compter les week-ends, sachant qu'un quart d'entre eux disent travailler tous les week-ends sans récupérer. Pour tous ou presque, cette charge a des conséquences sur leur vie privée, pour 60% sur leur santé. Corinne Audouin leur a tendu son micro entre deux piles de dossiers.
C'est un constat partagé, les magistrats croulent sous le travail. De nouveaux contentieux, plus de plaintes et toujours autant de juges. Cela donne des cadences staccanovistes, explique Olivier, vice-président du tribunal d'une ville moyenne.
C'est pas rare de travailler un week-end ou pendant les vacances pour être parfaitement à jour. Dans certaines fonctions notamment, quelqu'un qui est censé être à 100% peut rédiger 1200, 1300, voire 1400 décisions par an.
Au-delà des répercussions sur la vie personnelle, c'est la perte de sens de son métier que déplore Sophie, magistrate du parquet en région parisienne.
Parfois, on a l'impression de vider l'océan avec sa petite cuillère et ça tient encore uniquement par l'investissement des gens, par la passion qu'on peut mettre dans ce travail. Mais il y a des endroits où c'est en train de casser. Et il y a des gens qui sont en train d'être cassés aussi.
Le sujet est encore tabou dans la magistrature. Malgré le stress, la fatigue, très peu osent se dire en souffrance ou se faire arrêter. Mariam est juge d'application des peines dans une ville moyenne.
Moi, je me suis personnellement jamais arrêtée. Ne serait-ce que parce que de toute façon, si vous vous arrêtez, le travail n'est pas fait. Personne ne viendra vous remplacer. Et que quand vous reviendrez, vous devrez faire ce que vous avez laissé. Donc vous avez ce sentiment sans arrêt de pas être toujours à la hauteur de ce qu'on attend, mais en fait, je pense que c'est tout simplement pas possible.
Tous le disent, il est temps d'en parler, de briser le mythe du magistrat infaillible.
Voilà, et les prénoms des magistrats interrogés par Corinne Audouin ont été modifiés parce qu'ils sont soumis au devoir de réserve. Les détails de cette enquête sont à lire sur franceinter.fr. Eux aussi sont retournés au boulot tard hier soir, les agents des impôts chargés de la maintenance informatique, impuissants face au blocage du site impots.gouv.fr, submergés par les connexions. Plus de 4 millions de contribuables en ligne à 24 heures de la date limite pour les derniers départements concernés, dont ceux de la région parisienne. Le délai a donc été repoussé à jeudi soir minuit, ce qui n'étonne guère ce problème. Vincent Drezet du syndicat Solidaire Finances Publiques.
La question qui se pose aujourd'hui, c'est pas l'anticipation en termes d'analyse, je dirais. Hein. On savait qu'il y avait plus de personnes, on savait que les mêmes comportements se reproduiraient et que donc dans les derniers jours il y aurait à nouveau un pic. La question qui se pose aujourd'hui, c'est plutôt de savoir quels ont été les moyens des budgétaires, pour le coup, hein, les services informatiques pour adapter ce système-là. Nos collègues savaient ce qu'allait se passer, on les connaît, et donc du coup la question aujourd'hui c'est de savoir si dans le sous-investissement informatique que déplore la Cour des comptes à propos de la DGFiP, si le système de la déclaration en ligne est en question ou pas. Aujourd'hui, c'est une question sans réponse, mais évidemment, avec ce qui s'est passé hier, on ne peut que se la poser.
Voilà, donc délai, je vous le rappelle, repoussé de 48 heures à jeudi soir. Mais le ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin, appelle à s'y prendre avant la soirée de jeudi, cette fois, pour éviter un nouvel embouteillage. Gérald Darmanin qui lancera ce mardi le site internet du droit à l'erreur, oups.gouv.fr, qui dresse la liste des erreurs administratives les plus courantes et donne des conseils pour les éviter. Le droit à l'erreur a été reconnu dans la loi l'an dernier. Les administrés et les entreprises de bonne foi ne sont plus sanctionnés.
Il est 8h06, Florence, pour ou contre la fusion avec Fiat Chrysler?
Le conseil d'administration de Renault se prononcera en fin de journée. Faut-il accepter la proposition du constructeur américano-italien? Une fusion 50-50, dans ces cas-là, chacun rachète la moitié des parts de l'autre. Mais à quel prix? Certains estiment aujourd'hui que Fiat sous-évalue la valeur de Renault, dont les actions ont été plombées par l'affaire Ghosn. Il manquerait 6 milliards d'euros dans la corbeille de la mariée, selon Loïc Dessin, directeur général du cabinet Proxinvest, joint par Laurent Kramer.
Il manque finalement une prime, c'est-à-dire un prix plus intéressant pour les actionnaires de Renault. Les conditions actuelles qui sont proposées au niveau de la gouvernance font que la famille Agnelli pèsera très fortement. Alors que Renault a fait l'effort d'être mieux positionné sur le véhicule électrique, au moment où Fiat Chrysler se rend compte qu'ils sont finalement en retard, notamment en Italie, sur ce sujet. Je comprends l'intérêt de Fiat Chrysler à vouloir se rapprocher de Renault. À ce prix-là, je ne vois pas trop l'intérêt de Renault de se rapprocher de Chrysler. Le mariage à 50-50 est une illusion. Il y a toujours un camp qui prend le contrôle de l'autre. Je ne vois pas trop les intérêts des actionnaires de Renault de laisser à bon prix le contrôle de Renault à la famille Agnelli. Donc pour les convaincre, il faudra mettre plus d'argent sur la table. Si la famille Agnelli a vraiment envie que Fiat prenne le contrôle, ils peuvent sortir plus le porte-monnaie ou se faire plus diluer dans le nouvel ensemble.
Et selon les Échos ce matin, le fonds d'investissement Siam, qui détient 1% des actions Renault, fait le même constat. Il vient d'écrire aux administrateurs pour leur demander de faire preuve de vigilance. Et décidément, la France fait envie en ce moment. Les investissements étrangers ont été plus nombreux chez nous qu'en Allemagne l'an passé. L'Hexagone est devenu la première destination des centres de recherche et développement étrangers, selon le cabinet EY, anciennement Ernst & Young. Les tontons flingueurs de Laurent Wauquiez réunis ce soir sous la houlette de Gérard Larcher. Rendez-vous à 17h dans un hôtel parisien pour faire le point à huis clos. Il y aura les chefs de groupes parlementaires, les présidents des associations d'élus, des présidents de régions, Wauquiez inclus, 48 heures après sa démission de la tête du parti, dont la majorité se serait bien passée de cette démission. Yael Gauze, parce que pour les stratèges de La République En Marche, Laurent Wauquiez, c'était l'homme de la division à droite et c'était bien pratique.
Mauvaise nouvelle, c'est un atout en moins dans le jeu de cartes pour 2022. Première impression. Pression à chaud dimanche soir quand l'Élysée apprend la démission de Laurent Wauquiez. Wauquiez, qui était l'adversaire parfait car affaibli, ça ne nous arrange pas, reconnaît l'un des piliers d'En Marche qui ajoute « On aurait bien aimé le garder sous perfusion, qu'il reste l'ambassadeur d'une maison déglinguée ». Wauquiez parti, quelle sera la suite? C'est là que la plupart des cadres d'En Marche redeviennent optimistes. Un homme s'en va, mais sa ligne reste, se rassure un conseiller d'Édouard Philippe. Une ligne qui ne résout rien, pousse les plus modérés vers En Marche et les plus durs vers le RN. Autre motif de satisfaction pour l'AREM, quand un parti se reconstruit, il ne pèse plus, n'incarne plus, la maison va être en travaux pour des mois et des mois, se réjouit l'un des dirigeants d'En Marche, ce qui signifie un face-à-face Macron-Le Pen encore plus fort à l'approche des municipales. C'est le pari d'En Marche que la chute de Laurent Wauquiez et le retour de Marion Maréchal se neutralisent et accélèrent la recomposition au profit du parti présidentiel.
Et dans l'entreprise de récupération des élus de droite par la majorité, le délégué général de La République En Marche, Stanislas Guérini, pose ses conditions ce matin dans le Figaro. Il ne travaillera pas pour les municipales avec les maires LR qui ont soutenu activement François-Xavier Bellamy. Après les tontons flingueurs, voici Don Camillo dans l'Eure, un ancien curé qui déblatère à l'église contre le président de la République, Francis Michel, suspendu de ses fonctions pour avoir détourné de l'argent de la quête, a chanté des slogans anti-Macron avec des gilets jaunes dimanche à la messe de l'église du Planquet. Le préfet a saisi le procureur de la République pour outrage et non-respect de la loi de 1905 quant à l'évêque d'Évreux. Il demande à Rome de prendre des sanctions, Laurent Philippot.
Emmanuel Macron, aux têtes de pont, on vient C'est tout à fait inadmissible. C'est pas la première fois qu'il a ce genre, je dirais, de manifestation avec les gilets jaunes qu'il suit depuis longtemps.
Monseigneur Nourrichard, l'évêque d'Évreux est passablement énervé après les nouvelles frasques de Francis Michel. L'ancien curé s'était fait remarquer aux côtés des gilets jaunes lors de la venue d'Emmanuel Macron dans l'Eure pour lancer le grand débat. Et une nouvelle fois, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines.
J'ai su qu'il avait été mis en garde à vue à Paris. Il a dû essayer avec d'autres gilets jaunes de mettre sur pied une barricade pour empêcher les forces de sécurité d'avancer.
Trop, c'est trop pour l'évêque d'Évreux.
Je vais voir un peu quel dernier recours je puisse utiliser. C'est que, avec des refus obstinés d'obéissance et magnifiés publiquement, que cette personne soit renvoyée à l'état laïque.
Emmanuel Macron, tête de con, c'est ce qu'a chanté Francis Michel lors de la messe.
Il y a de la perversion et les prêtres n'ont pas à s'intégrer dans des mouvements qui veulent, appelons un chat, provoquer des bouleversements politiques. Il y a le suffrage des élections, il faut respecter la démocratie.
C'est à la fois un problème qui touche l'Église, mais aussi la façon de vivre en démocratie, ajoute Monseigneur Nourrichard, qui conclut « On ne peut pas séparer la charité de la vérité, ça ne fait qu'un ».
Les familles avec de jeunes enfants et les femmes enceintes qui vivent sur la cité, sur l'île de la Cité à Paris, invitées à faire doser le plomb présent dans leur sang. C'est une des conséquences de l'incendie de Notre-Dame. L'Agence régionale de santé annonce qu'un enfant a été dépisté avec un taux de plomb supérieur au seuil réglementaire. Des prélèvements sont actuellement faits dans les appartements de Lille où la dépollution des sols va bientôt commencer. Après la famille royale hier, Donald Trump a rendez-vous avec Theresa May à Londres aujourd'hui. Questions politiques et économiques au menu dans la perspective d'un rapprochement avec les États-Unis après le Brexit, sur fond de huées d'un carnaval anti-Trump dans les rues de la capitale.
Et que se passe-t-il, Florence? Il est 8h12, que se passe-t-il au Soudan?
Les événements des dernières heures ressemblent à un retournement de situation. D'abord l'armée qui tire dans la foule hier devant son QG de Khartoum, 30 morts. Et puis cette nuit, ces mêmes militaires qui ont déposé Omar el-Béchir sous la pression de la rue en avril ont annulé l'accord conclu avec les contestataires. Correspondance à Khartoum, signé Sébastien Nemeth.
Abdel Fattah al-Burhan a prononcé l'arrêt des négociations avec les civils, l'annulation de tous les accords conclus jusqu'à présent et l'organisation d'élections pour rétablir l'ordre. Le chef de la junte a donc annoncé un scrutin national et régional d'ici 9 mois, ainsi que la formation d'un gouvernement. Les ministres auront pour mission d'arrêter tous les membres de l'ancien régime impliqués dans la corruption et les crimes, d'apporter la paix dans les régions en conflit et de préparer des élections transparentes. Le chef du conseil militaire s'est de nouveau engagé à céder le pouvoir à ceux qui seraient choisis par le peuple. Quant au massacre d'hier au sit-in, Abdel Fattah al-Burhan a été on ne peut plus cynique, disant regretter que le nettoyage de Nile Street ait excédé les limites de ce qui était prévu. Or, Nile Street, c'est un autre quartier, comme si donc attaquer le sit-in n'avait pas été l'objectif de départ, alors que tous les témoignages indiquent le contraire. Sébastien Nemeth, Khartoum, RFI pour France Inter.
C'est la fin d'une époque qui n'aura pas duré si longtemps, la fin du temps où l'on téléchargeait de la musique incarnée par l'application iTunes d'Apple, ringardisée par le streaming. Apple a annoncé sa disparition. Préparez vuvuzelas et trompettes, Nicolas, ressortez votre maquillage bleu, blanc, rouge et votre panoplie de supporters de foot. C'est l'heure du mondial féminin, match d'ouverture vendredi soir au Parc des Princes, France-Corée. Et si elles remportent la coupe, les Françaises, combien gagneront-elles? Pas autant que les hommes, en tout cas, sachant que le budget de ce mondial féminin équivaut à moins de 4% de celui du dernier mondial masculin en Russie. Le calcul est vite fait par la milieu de terrain Gaëtan Tinet. Les filles, décidément, sont modestes.
Je le dis souvent, mais s'il fallait payer pour faire la Coupe du Monde, je paierais. Donc, je suis pas bien placée pour parler de ça. L'égalité homme-femme, moi, j'ai pas de soucis et j'ai pas de soucis pour l'entendre, mais si on rapporte autant que les hommes, j'ai pas de souci qu'on gagne autant. Moi, je parle mathématiques, en fait. Si on fait les comptes, je suis pas sûre que l'équipe de France féminine rapporte autant que les hommes. Donc, est-ce que c'est comparable? Non. Les primes, elles sont ce qu'elles sont. Franchement, négocier avec la fédération, quand on voit dans quelles conditions on est au quotidien, c'est-à-dire top, top, top. On n'est pas là pour négocier, parce qu'on fait partie de la même famille. Donc, je sais juste une chose, c'est que ce qu'ils nous donnent, c'est la meilleure des choses. Voilà.
Gaëtan Tinel a bleu au micro de Florent Vautier. À Roland-Garros, les gains seront les mêmes pour les hommes et pour les femmes. 2 300 000 euros pour les vainqueurs. Là, on en est au quart de finale avec un duel, comment dire, Helvéto-Suisse. Federer-Wawrinka, un autre qui opposera Rafael Nadal à Kei Nishikori chez les femmes. L'américaine Sloane Stephens, finaliste l'an dernier, jouera contre la britannique Johanna Konta. La tchèque Markéta Vondrousova contre la croate Petra Martic.
Les deux auteurs, deux Florence pour le prix d'un ce matin.
Et oui, on continue notre présentation des 10 livres en compétition pour le prix du livre inter avant le jury, le verdict du jury dimanche et sa révélation lundi matin dans ce studio. Ce matin donc, un livre à quatre mains, Nino dans la nuit, de Capucine et Simon Johannin. Le livre est publié chez Alia, écrit par un jeune couple qui parle de sa génération entre fureur de vivre et précarité.
En fait, c'est deux livres qui sont retrouvés en un seul livre. On ne savait pas si on voulait faire une grande histoire d'amour ou si on voulait écrire sur la fin du salariat tel qu'on a pu nous l'expérimenter. Et tout ça s'est mélangé complètement dans un seul et même livre. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est à travers les yeux d'une jeunesse d'aujourd'hui, d'une petite bande d'entre 20 et 25 ans, raconter un monde tel qu'on le voit, mais depuis une sorte de marge quand même. C'est une jeunesse qui est un peu abîmée, un peu cassée, qui a raté une marche ou deux et qui ne sait pas trop comment faire pour rattraper le wagon.
Enfin, ce qu'on voulait montrer là-dedans, c'était que des gens comme Nino et ses amis, on peut les voir facilement comme des ratés. Et on voulait montrer que les choses, elles sont pas si faciles. On voulait montrer comment on en arrive à leur situation. C'est hyper compliqué. Aujourd'hui, quand on n'a pas de diplôme, qu'on n'a pas de contact, qu'on n'a pas des parents, des gens qui peuvent nous aider, de trouver ne serait-ce qu'un boulot qui va être déclaré et dans lequel on va être traité correctement.
Voilà, Capucine et Simon Johannin avec Eva Bétan, comme tous les jours. Vous pourrez les entendre plus longuement dans le 13h, le journal de Bruno Duvic et sur franceinter.fr.
Merci Florence Paracuelos.